Passe derrière moi, Satan. Pourquoi la réaction de Jésus est-elle si vive? Cela a dû faire un choc à Simon-Pierre. Passe derrière moi, Satan. Ne voulait-il pas simplement préserver son maître et son ami? Le Christ n'est pas coutumier de sautes d'humeur irrationnelles. S'il appelle Pierre Satan, au risque de l'attrister réellement, c'est que la question est grave. Tu mets un obstacle. Tu mets un obstacle sur le chemin du salut. Tu mets un obstacle pour sauver la vie des hommes. C'est la possibilité de la vie éternelle pour les hommes qui est en jeu. Alors essayons de le comprendre dans un premier temps, comprendre comment cela est un obstacle au salut, pour dans un deuxième temps saisir quel chemin de vie le Christ nous trace. Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera pas, disait Simon-Pierre quand Jésus annonçait sa passion, mais aussi sa résurrection. Je ne sais pas si cette façon de dire finalement « pas du tout, tu ne mourras pas » fait retentir dans votre mémoire un autre passage de l'Écriture. « Pas du tout, vous ne mourrez pas. » Pas du tout, vous ne mourrez pas. C'est ce que le serpent disait au livre de la Genèse à Adam et Ève. Le serpent se prétendait l'ami des hommes en leur offrant un chemin de vie. « Vous serez comme Dieu. » C'était alors l'opposition à la vie comme don. Ne recevez pas la vie, prenez-la vous-même. Saisissez-vous vous-même de tout ce qui est à portée de la main. Le serpent disait, vous vivrez intensément si vous vous emparez vous-même de tout ce qui est à portée. N'attendez pas de recevoir. Le serpent refusait que la vie des hommes soit un don à recevoir. Et par son conseil, il a plongé l'humanité dans la mort. Ici, ce que l'on entend, ce « pas du tout, tu ne dois pas mourir » adressé au Christ qui annonce qu'il va livrer sa vie pour les hommes, c'est à nouveau le refus de la vie comme un don. Mais là, non pas comme un don à recevoir, mais comme un don à offrir. Cette fois-ci, on prétend qu'il n'est pas nécessaire ni souhaitable que le Christ offre sa vie. Garde-la pour toi. Le conseil du serpent, le conseil du démon, a pour motif une opposition à la vie comme don, don à recevoir ou don à offrir. Or, la vie éternelle, c'est la participation à la vie même de Dieu. Il n'y a pas d'autre vie éternelle que celle de Dieu. Il n'y a pas l'éternité, c'est celle de Dieu. Entrer dans la vie véritable, c'est vivre comme Dieu. Il n'y a pas d'autre modalité. Et la vie de Dieu, cela nous est révélé, c'est une communion, c'est-à-dire c'est un don. La vie en Dieu se donne et se reçoit. Le Père donne tout au Fils qui se reçoit entièrement du Père et qui se donne à lui dans l'Esprit Saint. Donc, participer à la vie éternelle, c'est participer à la vie de Dieu, c'est donc entrer dans cette logique de la vie comme don, don à recevoir, don à offrir. Et c'est donc pour les hommes, pour nous, nous préparer dès à présent à cette logique de la vie comme don, apprendre à en vivre, apprendre à vivre en recevant cette vie, apprendre à vivre en donnant notre vie. Mon Père rendra à chacun selon sa conduite, dit Jésus. Donc, soit notre conduite respecte, adopte cette logique du don, don à recevoir et don à offrir, et alors nous recevrons en plénitude cette vie que nous aurons sur terre commencé à déployer, soit nous l'aurons repoussée parce que nous avons préféré écouter la voix de l'égoïsme et tâcher de préserver notre existence simplement pour nous-mêmes, et nous obtiendrons alors ce que nous aurons voulu, l'existence loin de Dieu, loin de la logique de la vie comme don. Ce qu'on appelle finalement la damnation. Le Christ nous met en garde. À quoi servirait de gagner le monde entier si c'est au prix de la perte de notre propre vie? le monde entier. Vous vous souvenez peut-être que, au monde des tentations, le diable avait justement promis à Jésus, « Je te donnerai tous les royaumes de la terre, tous les royaumes du monde, si tu te prosternes devant moi. » Jésus nous invite à accueillir le fait que la vie est d'abord un don reçu. Je ne me suis pas donné la vie à moi-même. Il a fallu qu'un spermatozoïde de mon père féconde un ovule de ma mère. Il a fallu que je sois porté pendant 9 mois dans le sein de ma mère. Il a fallu qu'on prenne soin de moi pour que je me développe, que j'apprenne à parler, etc. Le Christ nous invite à recevoir, à comprendre que la vie est d'abord un don. Et il nous invite aussi à explorer cette intuition que notre vie est faite pour être donnée, est faite pour porter du fruit en se donnant. C'est ce que signifie le mariage, où les époux se donnent l'un à l'autre, mais c'est aussi l'intuition dans l'amitié. Qu'est-ce que c'est un ami ? C'est quelqu'un à qui je peux confier le secret de ma vie, qui est capable de le recevoir. Et lorsque je n'ai personne à qui confier ce secret de ma vie, il y a une espèce de solitude terrible, une impression justement de stérilité. Ma vie est un secret qui est beau à partager, mais qui ne peut être partagé que de façon intime. L'ami permet de recevoir cela, d'accomplir cela, reçoit le secret de ma vie, reçoit le talent qui est le mien. Et ce talent de notre vie, assurément, ça peut être un talent de production, pensons à l'artisan qui travaille le fer pour forger je ne sais quelle barrière, peut-être tout en dentelle de métal, mais c'est aussi le talent de l'écoute, c'est jusqu'au talent de l'intercession. Même le malade peut se donner, même le malade peut se donner comme un don précieux. Alors, entrer dans cette logique de la vie comme don à recevoir et comme don à faire de notre existence, c'est la condition pour l'entrée, la préparation à la vie éternelle, à la vie de Dieu. Et cela va, et c'est mon deuxième temps, provoquer une conséquence sur notre façon de vivre. Ça va d'abord provoquer la conséquence de repousser une illusion. L'illusion qu'on pourrait cheminer dans notre existence en faisant l'économie de la croix, qu'on pourrait éviter toute épreuve en étant un peu astucieux. Mais en fait, l'épreuve, elle est déjà là dans nos existences. La croix est déjà là dans la pâte humaine qui est la nôtre. Nous sommes déjà mortels, nous sommes déjà fragiles. Et si nous l'avions oublié, l'épidémie qui frappe ce monde nous le rappelle. Celui qui veut aimer comme le Christ fera aussi comme lui l'expérience de la résistance des cœurs endurcis, des cœurs qui s'exclament comme ceux des possédés en voyant Jésus, « Tu es venu pour nous perdre avec tes idées de don de soi, avec tes idées d'amour gratuit, tu es venu pour nous perdre. » Ceux qui se sont endurcis résisteront des quatre fers à cette annonce de l'Évangile. L'opposition sera radicale en une prétendue vie tranquille, préservée de toute épreuve, illusion, et la vie véritable qui se donne jusqu'au bout. Cette opposition est parfois patente dans les mesures que nous prenons. On peut réfléchir, et là c'est juste, j'allais dire, une piste de réflexion que je vous offre, dans les mesures que l'on met en place pour lutter contre cette épidémie. Il y a des mesures qui sont justes, au sens de nous allons éviter d'être occasion de contamination pour un autre. C'est la raison pour laquelle nous portons un masque. C'est d'abord pour protéger les autres du risque que nous pouvons présenter. Mais il y a parfois la question de se dire jusqu'où doivent aller nos mesures. Pensons parfois aux personnes âgées qui se sont retrouvées sans aucune visite. Où il y a une question de nous dire, mais est-ce que la mesure que je prends est encore une mesure humaine. D'un côté, je dis préserver la vie, mais de l'autre, j'empêche le déploiement de la vie véritable, la vie qui est relation, qui est réception et qui est offrande. Si les mesures que je prends ne permettent plus qu'il y ait une quelconque relation de réception et d'offrande, cette vie est-elle encore humaine ? Plus exactement, est-ce que je me comporte encore humainement par rapport à cette vie ? Il ne s'agit pas de mettre en danger les soignants, on le comprend bien, il ne s'agit pas de ne pas réfléchir à comment protéger les autres colocataires, mais il s'agit de se dire aussi que nos mesures pour préserver une vie biologique n'en deviennent pas une négation de la réalité de la vie humaine comme réception et comme don. Je ne dis pas que j'ai une solution toute faite, mais je dis qu'il faut y réfléchir pour ne pas devenir inhumain. Quel sera aussi, du coup, pour moi, cette année, pour chacun de nous, le lieu du don ? Pour nous préparer à cette logique de la vie comme don, don reçu et don offert, où sera le lieu cette année où je donne de moi-même ? Est-ce que ce sera par la musique ou le chant dans le petit chœur à la paroisse ? Je chante, je joue d'un instrument, je sais faire chanter. Est-ce que ce sera pour permettre aux personnes en fauteuil de venir à la messe le dimanche ? Est-ce que ce sera pour animer le catéchisme paroissial ? Est-ce que ce sera en rejoignant les cellules paroissiales d'évangélisation, en assurant une permanence d'accueil dans l'Église ? Je cite juste quelques pistes, il y en a bien d'autres. À partir de la semaine prochaine, sur les panneaux qui sont au fond de l'Église, là-bas, il y aura une liste de services nécessaires à cette vie paroissiale, à cette vie communautaire. La vie de la paroisse d'où le Christ dispense sa grâce. Cette vie ne peut rayonner que par nos engagements à chacun, que par un certain don de notre vie. Seigneur Jésus, comme tu as permis à Pierre d'échapper au conseil du serpent, viens à notre secours aujourd'hui. Nous croyons que la seule vie véritable est la tienne et qu'elle est une vie de don, don à recevoir, don à offrir. Ne nous laisse pas poursuivre une vie qui apparaît préservée mais qui serait stérile. C'est vrai, la croix est déjà présente dans notre existence, avec toi devant nous et avec ta grâce. Nous nous en saisissons pour vivre cette année dans la logique du don. Don à recevoir, don à offrir. Amen.